pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire a paru sur le site Rue 89 en décembre 2014. Pierre est étudiant en droit, il cherche un boulot d'été. Il postule pour être brancardier dans un hôpital. Après plusieurs réponses négatives, il est finalement engagé dans un service de gériatrie de nuit sans qu'on lui donne plus de précisions. Il s'étonne toutefois de cette affectation, doutant qu'on ait besoin de brancardier dans une telle unité à une heure pareille. Dès le premier soir, Pierre comprend qu'il remplace en réalité une aide-soignante en congé. Pour ce travail, il n'a reçu aucune formation et n'a aucune compétence. Il se retrouve au milieu de malades, souvent impotents, et de soignants déprimés. Son travail consiste globalement à changer, nettoyer et coucher les patients. Certains hurlent et insultent, raconte-t-il sur le site de Rue 89, d'autres crachent, mordent ou frappent. Certains ne disent plus rien et se murent dans le silence, d'autres respirent la joie de vivre sur leur lit de mort. La plupart des patients sont fous ou en train de le devenir, conclut l'étudiant en droit. Après la vision des patients dans un état de folie, d'extrême faiblesse ou de démence, Pierre est frappé par la ténacité des odeurs, insupportables. Plusieurs fois, il songe à quitter les lieux, plusieurs fois il panique lorsqu'il se retrouve confronté à des pathologies qu'il ignore entièrement. Au bout de quelques jours, une fois dépassé ses propres appréhensions et son dégoût, Pierre est accablé par la dureté du travail des aides-soignants. Malgré la peur, la pénibilité, le caractère parfois insoutenable des tâches à accomplir, il les voit tous ou presque rester professionnels et dignes. Son récit vu de l'extérieur d'un service souvent mal connu est glaçant. Aujourd'hui tout aussi rare, des aides-soignantes qui travaillent dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, racontent la dureté de leur vie quotidienne et le combat qu'elles mènent pour un peu plus de temps et de considération pour elles-mêmes ainsi que pour les patients. En tout cas jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, au micro de Pascal Pascariello, Prendre Soin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Ella, je suis aide-soignante à Dans les Parents. C'est une maison de retraite qui est située sur Perrier, à Marseille. Et ce matin, on s'est rendu donc à l'inspection du travail avec 7 membres du personnel. Et on a abordé tous les sujets qu'on pensait injustifiés par la direction. Notamment le harcèlement, la maltraitance, des sujets qui semblent très graves. Et là, on en sort et on va se rassembler pour faire le point sur ce qui va arriver par la suite.
Oui, l'inspection du travail va diligenter rapidement une enquête sur les risques psychosociaux. Donc ça veut dire qu'à deux, ils vont intervenir dans l'établissement pour faire cette enquête. Et ça, c'est très important pour nous. Moi, je suis Virginie Cassignol, responsable de l'Union locale CGT Marseille-Sud.
Le fait qu'il y ait une enquête interne à l'établissement, ça peut que nous soulager un petit peu. On se dit qu'il va y avoir des vérités qui vont sortir et que forcément, des personnes qui n'osent peut-être pas témoigner vont le faire individuellement. Et ça peut nous soulager parce qu'on sait qu'on a quand même des collègues qui ont peur de perdre leur job et que là, elles vont pouvoir témoigner individuellement sans que leur nom soit cité, quoi.
On se retrouve tout à l'Union locale, alors du coup.
Je monte avec Isma.
Alors je m'appelle Ella, j'ai 27 ans, ça fait 8 ans que je suis aide-soignante et que j'exerce ce métier que j'aime, quoi. Alors, je travaille dans un secteur fermé. C'est un secteur où il y a plusieurs pathologies, notamment des démences, de type Alzheimer et autres. Je suis très bien dans mon service. J'adore ce que je fais. Je commence le matin à 7h30. Je finis à 19h. Donc, le matin, quand j'arrive, je dois faire l'installation de mes résidents pour la prise de leur petit déjeuner, les amener à la douche, leur faire leur toilette. Ensuite, donc, on les installe à table, ils déjeunent. Je leur sers leur repas, j'aide les personnes à s'alimenter, celles qui ne peuvent plus le faire toutes seules. C'est des personnes qui sont démentes, donc elles oublient même des fois de manger. Ensuite, à 14h30, donc j'ai l'échange d'après-midi. Donc, je dois changer les résidents parce qu'ils sont incontinents. 15h, j'ai le goûter. Donc, je les installe tous ensemble et j'essaye de les amener à ce qu'ils fassent une activité, donc une animation. Moi, ça sera toujours les mêmes parce que je ne suis pas animatrice, je suis simplement aide-soignante. Donc, l'animation, je ne connais pas trop. Mais voilà, j'adore l'esthétique. Donc, je coiffe, je maquille. J'adore la chanson, donc j'essaye de reprendre des chansons qu'ils aiment, des chansons de leur époque, et on chante ça toute l'après-midi, ils adorent ça. Ça donne de la bonne humeur et de la joie. À 18h, donc, il y a le repas. Et puis après le repas, donc, je les accompagne chacun à leur tour à leur chambre. Et là, je change les résidents, je les mets en pyjama, je fais la toilette intime, la toilette l'hygiène buccale. Et puis, je leur souhaite une bonne nuit, et je baisse les volets, je les installe dans le lit. Au fur et à mesure. On est deux pour 19 résidents, sachant qu'on a quand même des résidents dans mon secteur qui ne sont peut-être pas lourds physiquement, mais c'est des démences Alzheimer, c'est des personnes qui, excusez-moi du terme, mais peuvent manger leur sel. Il faut répéter constamment les mêmes choses, ils ne nous écoutent pas forcément, donc il faut trouver le moyen de les convaincre, ne serait-ce que pour aller à la douche, quoi. Ils n'ont pas forcément envie, ça devient de la négociation forcément à la fin et ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer une heure, quoi. C'est une bataille, je me bats avec moi-même pour aller au plus vite tous les jours, pour qu'ils mangent tous, pour qu'ils soient couchés tous correctement, pour qu'il y ait une hygiène buccale correcte pour aller se coucher, pour qu'ils portent leur pyjama correctement, pour qu'ils se sentent bien dans leur lit avant que je m'en aille, quoi. Alors, ma direction me laisse un quart d'heure par résident. Je pense que c'est assez correct pour faire une douche à une personne. Sauf que ce n'est pas la réalité des choses. Quand vous avez une résidente que vous allez laver et que 2 minutes après, elle a mangé des sels et qu'il faut retourner, la ramener à la douche et je suis en train de me retourner pour récupérer une serviette, elle s'est déjà évadée, elle est en train de courir dans le couloir à moitié nuit. Il faut renégocier pour qu'elle revienne à la douche. Elle a déjà oublié qu'elle était à la douche. Il faut lui remettre son pantalon parce qu'elle l'a enlevé entre-temps ou lui renfiler le t-shirt qu'elle a mis à l'envers ou qu'elle a sali... dans les 5 minutes qui ont suivi la toilette. Donc c'est... humainement parlant, c'est pas possible, quoi. Vous respectez la dignité des personnes qu'on a en face. Je pense qu'il faudrait bien une demi-heure à 45 minutes par personne. On nous impose des règles, un planning, mais c'est pas possible de le respecter. Si on veut respecter la personne, on peut pas respecter le planning. Si on veut respecter le planning, c'est qu'on respecte pas la personne. Leur but, c'est faire du chiffre d'affaires, c'est le clientélisme, parce qu'ils appellent pas ça des résidents ou des patients. Pour eux, c'est des clients. Et eux, ils s'en foutent d'être clients, quoi. Ils ont rien à cirer, quoi. Ils veulent juste être traités avec dignité, quoi. C'est tout. Ça me prend à cœur, c'est des situations qui me prennent à cœur, parce que... Lundi 23 octobre, je pense que c'était le 23 ou le 24 octobre, je me suis retrouvée seule sur mon secteur. Donc j'ai 19 résidents qui courent dans tous les sens dans le couloir, avec des démences, des pathologies Alzheimer, qui me demandent tous quelque chose en même temps. C'était plus possible. Et là, j'ai une famille qui court. Et là, s'il vous plaît, venez vite, venez vite. Et là, effectivement, je vois que j'ai une résidente qui se trouve sur le balcon. On est au 5e étage, une résidente qui a des propos suicidaires depuis son entrée, avec une chaise à ses côtés, elle était penchée. Donc j'ai vite couru, j'ai essayé de négocier avec elle pour qu'elle re-rentre. Elle me disait qu'elle voulait regarder par la fenêtre, qu'elle se sentait pas bien, qu'elle voulait partir. Et je l'imaginais déjà en bas avec les pompiers, le SAMU et son pauvre mari en train de pleurer. Et moi, je me suis imaginée tout de suite en prison... Et mon petit abandonné, quoi, parce que je suis quand même maman célibataire, j'ai un petit de 8 ans et je perds mon diplôme, je perds toute ma vie, quoi, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai négocié avec elle, elle est rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, j'ai refermé la porte et j'ai appuyé sur le verrou, parce que sachez que sur les portes-fenêtres, on a des verrous. Je sais pas ce qui faisait ouvert, ce verrou. Et là, je me suis effondrée par terre, je pleurais. Et la seule personne qui m'a consolée, c'était la famille d'un résident, quand même, en me disant que c'était pas de ma faute, qu'ils comprenaient la situation et que si je voulais, ils pouvaient aller eux-mêmes témoigner de la scène. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur l'ordinateur et je fais ma transmission. Sachez que sur l'ordinateur, les transmissions vont sur tout le groupe. Donc, sur le DRI, enfin, sur l'ordinateur, je note que je suis seule avec 19 résidents. Donc, j'explique toute la situation comme je vous l'explique à vous. Et j'explique aussi que je suis vraiment choquée par ce qui vient de se passer, que je suis terrifiée, que je ne sais pas comment réagir, que la résidente ne voulait pas rentrer, que j'étais seule avec ces 19 résidents, donc le temps que j'ai passé avec elle à négocier, je ne savais pas ce que faisaient forcément les autres résidents. Ça ne devait pas arriver, quoi. Et là, je suis à bout, quoi. Je ne peux plus rester seule avec eux, quoi. Et le lundi matin, j'ai la directrice qui arrive très en colère, qui veut me recevoir en me disant « C'est inadmissible ce que vous avez mis. » Alors je lui demande ce qui était inadmissible, le fait que je sois seule avec 19 résidents ou le fait que j'écris ce que j'ai ressenti et la situation telle qu'elle s'est passée. Elle me dit « Je comprends que vous puissiez ressentir ça, mais je vous demanderai de ne plus l'écrire, de ne plus le tracer, parce que ça peut porter préjudice. La seule chose que j'avais le droit d'écrire, c'est « Une résidente s'est retrouvée sur un balcon. » Il fallait que je m'arrête là. » Là, je suis arrivée à un stade où je craque psychologiquement. J'essaye pas de craquer sur mon lieu de travail, même si c'est difficile. Mais c'est vrai que quand j'arrive à la maison, bah, je craque pas devant mon petit bout. Et du coup, je fais à manger et je le couche. Mais une fois qu'il est couché, c'est moi qui craque, quoi. Je vais sous la douche et je pleure. Et je me lève 2 à 3 fois dans la nuit parce que je sature, quoi. Je comprends. J'ai l'impression qu'on me force quelque part à faire de la maltraitance et qu'on se délègue de toute responsabilité. Sachant que c'est eux qui nous imposent ces règles-là, quoi.
Je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans, je suis aide-soignante depuis 2003. Et je travaille pour la maison de retraite Orient depuis quelques mois. Ben, avant d'arriver au groupe Orient, j'étais aide-soignante intérimaire. C'est comme ça que je suis rentrée chez eux. Je suis arrivée un petit peu au moment où il y avait des problèmes dans cet établissement. Donc il y a eu cette arrivée de la nouvelle direction, la grève qui s'est installée. D'ailleurs, moi, je suis partie travailler ce jour de grève parce que bon, je me sentais pas concernée encore par tous ces problèmes. Et donc j'ai signé CDI au mois de juin. J'étais mise dans un étage, au 4e étage, que personne ne voulait faire parce que c'était, à cette époque-là, l'étage le plus dur. À peu près 24 résidents à l'étage. C'était des grabataires qui étaient difficiles en toilette, dont il fallait s'occuper tout le temps. Donc à l'étage, on était censé être à 2 aides-soignantes et la plupart du temps, j'étais seule parce qu'il manquait toujours du personnel. Je me mettais à la place du pauvre résident, il était pour rien. Donc je faisais mon travail, voilà. Et je faisais mes résidents, oui, je faisais les toilettes, peut-être bâclées aussi, hein. Je ne pouvais pas donner de douche correctement, mais je faisais mon travail et je culpabilisais complètement de me dire j'ai mal fait mon travail. C'est plus, voilà, on a notre conscience professionnelle qui en prend un coup et puis il n'y a plus d'humanisme, voilà. Moi, je pense... Voilà. Mais en fait, on était arrivés, ils étaient arrivés à un système où ils voulaient donc arrêter les couches complètes. Ils voulaient donc mettre tous les résidents donc en couche anaforme. C'est en fait des sortes de serviettes hygiéniques, mais un peu beaucoup plus grandes en fait, qui protègent juste vraiment les parties intimes. C'est des protections qu'on peut mettre aux personnes qui peuvent aller seules aux toilettes, parce que ça protège des fuites urinaires, hein, uniquement. Et bon, ils ont décidé de mettre ça à tous les résidents, par souci d'économie. Avec un tour de change limité, puisque les résidents étaient changés 2 fois. Là, c'était arrivé à 1 seule fois. Donc, j'arrive le matin, je rentre dans une chambre, je vois une résidente grabataire dans son lit, pleine de sel liquide, parce que c'est une résidente qui avait l'habitude de faire des sels liquides, donc quasiment de la tête aux pieds, et ça coulait à travers le drap. Donc j'ai dû rester 1 heure à m'occuper de cette personne. J'ai dû aller chercher un tablier, me mettre le tablier. Quand j'avais fini de la faire, en sortant de là, j'ai eu l'impression de sortir de Tchernobyl. J'étais à bout, c'était autre que pas possible. Ça allait trop loin. Donc il y a eu cette résidente-là, il y en a eu un autre pareil. qui étaient souvent trempés parce que c'était ceux qui ont subi les conséquences, les résidents qui étaient beaucoup trempés, qui avaient souvent des selles liquides. Donc ces résidents-là, on les trouvait de la tête aux pieds, dans leur caca. Ils étaient dans leur caca. Pendant combien de temps? Là, dans leur caca, leur pipi. C'était les draps, on devait les mettre à la poubelle parce que les draps, ils étaient même plus lavables. Et je ne sais pas, plus de mots pour choquer. Choquer. Et me dire, mon Dieu, si leur famille voyait ça, mon Dieu. C'est injuste. C'est injuste parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas parler et qui peuvent juste subir ce qu'ils subissent. Puis je m'inquiétais des conséquences physiologiques quoi, de la personne, les rougeurs, les escarres, c'était horrible, hein. C'était horrible, vraiment horrible. Et je l'ai constaté, mes collègues l'ont constaté, on l'a signalé parce que là on allait trop loin. Voilà, je suis abattue. Je suis très, très abattue. Je pensais pas que j'en arriverais là un jour, vraiment.
France Culture, les pieds sur terre.
Deux courriers. Un sur deux pages et une seule page.
Je m'appelle Muriel, je suis aide-soignante dans une maison de retraite du Groupe Orient à Marseille et je travaille là-bas depuis 9 ans, presque 9 ans, oui, et je suis de nuit, j'ai 33 ans.
Je m'appelle Farida, je suis aide-soignante depuis 4 ans et demi. Moi j'étais infirmière en Algérie et j'ai exercé le métier d'infirmière pendant 15 ans et j'ai fait 3 ans d'école en fait, c'est pareil. Et là, je suis aide-soignante et j'ai 41 ans.
Là, il y a Pauline avec nous et là qui est avec nous. On est tout autour là, de la table. Expliquez-moi grosso modo, et je lisais d'ailleurs, il y avait une grève en avril. Et là, vous y avez participé, Farida ?
Oui. Oui, on a participé à cette grève parce que on voulait dénoncer la mauvaise organisation de travail qui conduisait forcément à de la maltraitance. Alors, déjà pour commencer sur le manque du personnel, je reviens sur les aides-soignantes de nuit. Elles sont deux aides-soignantes pour un établissement qui comprend quand même 96 résidents. C'est pas possible, en sachant que vous avez des changes, des décès, des chutes, des personnes qui sont en même temps, elle peut pas se couper en deux, là, quoi. C'est pas possible, quoi. Ça devient vraiment... Enfin, on nous force volontairement à faire de la maltraitance parce que plusieurs fois, on leur a dit que ce n'était pas possible et ils n'ont rien fait pour essayer d'arranger les choses.
Lundi matin, 10 octobre.
Muriel,
c'est le lundi matin, 10 octobre.
Oui. En fait, ce jour-là, je suis arrivée au travail. Moi et ma binôme, quand on arrive sur l'étage, on fait les deux V. Donc, ce jour-là, c'était dramatique. En fait, la porte, elle était fermée. Et cette dame, elle est tellement angoissée et tout. Normalement, on ne devrait pas fermer la porte le soir avant de partir. Je laisse la porte ouverte. Et du coup, il y avait des vacataires ce soir-là.
Des vacataires, ça veut dire des intérimaires ?
C'est des remplaçants. C'est des intérimaires, voilà. C'est des remplaçants qui ne connaissent pas l'établissement. Et du coup, ils ne connaissent pas bien les résidents et tout. Du coup, ils ont fermé la porte.
Elle avait quel âge, cette dame âgée ?
Elle avait 87 ans. Elle était bien, elle avait toute sa tête. On discutait dans la journée, on parlait. Pour elle, ses enfants, ils ne sont pas là et c'est nous, sa famille.
Donc cette dame de 87 ans, que vous avez l'habitude de voir ce matin-là, le lundi, vous arrivez et la porte est fermée.
J'arrive, la porte elle est fermée, j'étais moi et ma collègue, donc j'ai dit à ma collègue, oh c'est pas normal, la porte elle est fermée, il n'y a pas de sonnette, ça m'a fait un peu bizarre. Donc j'arrive, j'ouvre la porte et c'est là où j'ai trouvé la dame par terre, le visage contre le sol. Et elle était d'une position vraiment affreuse et avait du sang de partout. Et du coup, l'infirmier qui arrive en courant, et il nous a dit « allez-y, allez-y », il a ramené d'autres aides-soignants parce que nous, on était dans le choc. En tous les cas, même le geste qu'ils ont fait, c'est pas normal. Ils devraient la laisser, ils devraient appeler le médecin qu'ils voient d'abord, alors qu'eux, ils l'ont retourné comme ça sur le sol et ils l'ont mis sur le lit. Donc du coup, après, l'infirmier, il a demandé aux ASH de tout nettoyer et de tout ramasser pour que la famille ne voit pas ça et tout. Donc... oui, normalement, il y a un système d'alarme, un appel malade, en fait, pour appeler pour la personne. Mais voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a sonné, parce que c'est une dame qui sonne, hein, c'est une dame. Elle sonne toute la journée.
Si elle n'est pas rassurée, elle va sonner toute la nuit, elle va angoisser. Et les intérimaires, vu qu'on a un bip qui sonne très fort, les intérimaires, ils l'ont mis dans une boîte à gants, ils l'ont mis dans le tiroir du chariot, et ils sont allés dormir, ils l'ont laissé. Elle a essayé de se lever, elle est tombée et elle est décédée.
On ne peut pas l'enfermer, quoi, parce qu'elle risque de faire une crise d'angoisse et de s'étouffer. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Elle a sonné une fois, deux fois, trois fois. À ce moment-là, elles ont dit « bon, c'est notre pause, on va dormir ». Elles ont refermé la porte à clé derrière elle. Et la pauvre dame, ben, elle s'est retrouvée dans une panique totale, je pense. Après, je n'étais pas là pour voir la situation, mais comment elle a été découverte, ça parle beaucoup, quoi. Une personne qui baigne dans une mare de sang, le visage tuméfié au sol, c'est quand même assez choquant comme image, quoi. C'était même pas dans quelles conditions elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé, c'est « mon Dieu, la famille va arriver ». Donc ça a été, il fallait mettre toute une mise en scène pour que quand la famille arrive, on s'imagine une mort naturelle ou... les vraies circonstances n'ont pas été dévoilées à la famille, quoi. Et ça, je pense que c'est... quelque chose de quand même ignoble, quoi.
Ils n'ont pas appelé de médecin.
Il n'y a eu aucune déclaration de décès, ni des médecins, ni des infirmiers. On en a parlé quand même avec la direction, en leur disant que pour nous, c'était qu'ils ont essayé d'étouffer cette affaire-là. Elle nous a répondu qu'un médecin était passé, notamment la MEDEC.
MEDEC,
c'est le médecin coordinateur de l'établissement. Et sauf que les personnes qui étaient là présentes à l'heure de la prise de leur poste, elles ont témoigné qu'il n'y a aucun médecin qui est arrivé. On n'a pas notre mot à dire parce qu'on est simplement des aides-soignantes. Enfin, pour eux, on est simplement les aides-soignantes. C'est la direction. Et si on s'amuserait à dire à la famille les réelles circonstances et que ça venait à leurs oreilles, bah alors là, ça serait des sanctions, des menaces, de harcèlement, de...
Et justement, oui.
Comme je voulais rajouter une chose. Justement, comme elle a dit, ma collègue, et là, tout à l'heure, on ne peut pas le marquer sur l'ordinateur, sur le DRI, parce que sinon, on va se faire massacrer par la direction, quoi.
On nous interdit de transmettre la réalité. Les bonnes transmissions, ben, les transmissions, il faut qu'elles vont dans leur sens. On ne peut pas dire la vérité. On ne peut plus témoigner. On ne peut plus rien faire, en fait.
Moi, je pense que dire la vérité aux familles, c'est se mettre en tort avec la direction. Donc on choisit notre travail ou les problèmes.
C'est comme si je suis une traître. Je ferme la, je vois des choses qui sont pas bien et c'est comme si je suis complice avec eux. Voilà. Donc je préfère et aujourd'hui j'ai préféré parler que garder tout ça à moi-même. Voilà.
C'est dégueulasse, quoi. C'est horrible ce qu'on vit. C'est inhumain, même un animal, on ne le traite pas comme ça, quoi.
Les patients, chacun a un vécu. Ils ont travaillé toute leur vie pour payer une retraite, les pauvres. Et du coup, là, ils sont à la retraite, ils sont dans une maison de retraite pour finir leur jour tranquillement. Et du coup, ben non. La vérité, en vrai, c'est pas ça. Ils payent leur maltraitance et leur mort.
La maison de retraite de laquelle on est en train de parler depuis un certain moment maintenant, c'est quand même une maison de retraite assez luxueuse. Les résidents payent une certaine somme. Ça va de 3500 euros par mois pour une chambre jusqu'à 6000 euros pour une personne.
Par mois ?
Par mois, oui, par mois. Et quand on leur demande pour combien mange un résident, ben, on vous répond pour 4 euros par jour. Donc il a le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et le goûter pour 4 euros par jour. Et ça se voit sur le contenu de leurs assiettes. Des fois, il manque des soupes, des fois, il manque des entrées. Ah ben, celui-là, il n'aura pas d'entrée, ben, il n'y en a pas. Je suis désolée, mais ils payent autant que les autres, quoi. Ils sont beaucoup dans le... Pour eux, ce n'est pas des patients ou des résidents ou des personnes âgées, c'est simplement des clients. Sauf que ces clients-là, ils sont malades, et qui sont quand même rentrés dans cette maison de retraite parce que c'est une maison de retraite médicalisée. Et ça, ils ont tendance à l'oublier, quoi. Cet argent ne va pas dans notre poche, ça c'est sûr. Hein. Alors, mon salaire actuel, il est de 1 230 € exactement par mois.
Moi, c'est 1 290 depuis 4 ans et demi que je suis là-bas.
Moi, personnellement, je pense que d'ici la fin de l'année, je m'en vais, quoi. On va essayer de voir le compte rendu de ce que peut engendrer la venue de l'inspection du travail, la venue de l'ARS,
de l'agence
régionale de santé, voir jusqu'où cela va mener. Si au final, de tout ça, il n'y a rien qui se décèle, ben, j'abandonnerai.
Moi, je ne voudrais pas partir de là-bas, en fait. Je voudrais bien continuer de travailler et veiller sur ce résident, parce que là, je suis pour le résident. Et j'aimerais bien qu'il y aura une justice, quand même.
Ils ont été malins parce qu'ils ont essayé de nous manipuler. Leur slogan, ça a été « diviser pour mieux régner ». Donc, ils ont essayé de nous diviser. Ça a marché un temps. Mais au final, on a moins peur, toutes ensemble, de dénoncer tout ça.
J'avais peur. Mais là, maintenant, au contraire, j'ai pas peur parce que je les ai affrontés. J'ai affronté la direction. Mais avant, j'étais vraiment mal. Même mes enfants, ils avaient peur pour moi parce qu'ils ont vu que c'était trop. Même ma fille de 15 ans qui a commencé à me dire « Non, maman, t'as pas peur, c'est pas grave. Même si on mange pas, même s'ils te virent et on mange pas, il n'y a pas de souci. » C'est là où j'ai vraiment senti que le travail, c'est pas tout. Et c'est de ma fille de 15 ans qui m'a dit « Maman, tu t'en fous, mais c'est pas grave, maman. Même si on mange pas, mais notre travail ne va plus là-bas. » Ne retourne plus. Donc, c'est là où j'ai compris que j'ai dit, c'est pas grave. Même si ma famille, elle est avec moi, tant pis. Il faut que je dénonce ces monstres, quoi. C'est des monstres.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Prendre Soin, un reportage de Pascal Pascariello, réalisé par Marie Placet. Merci à Virginie Cassignol, à Ella, à Farida, à Muriel et à Pauline, ainsi qu'à l'Agence régionale de santé. Des commentaires, des réactions, des partages, des infos, des témoignages, direction les fameux réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook. On vous y attend nombreux. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Livia Garrigue, notre stagiaire du moment.